Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment promouvoir l'agriculture urbaine pour nourrir les villes africaines? Le continent connaît les taux d'urbanisation les plus rapides au monde. D'ici 2050, 950 millions d'habitants supplémentaires vont encore davantage densifier les villes, selon Africa Police. Des villes qui vivent désormais avec ce paradoxe. Plus elles sont peuplées et plus les ceintures vertes ainsi que les jardins de fruits et légumes disparaissent peu à peu sous la pression du foncier. Et pourtant, l'agriculture urbaine peut créer des emplois, proposer des circuits courts d'approvisionnement, créer aussi des îlots de fraîcheur au milieu des canicules. Nous allons en discuter avec nos invités. Christine Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la chaire Agriculture urbaine d'AgroParisTech et vous avez publié notamment « Vers une ville verte et agroécologique », qui est un ouvrage collectif aux éditions de l'Apogée. Mokhtar Diouf, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, vous êtes chercheur enseignant à l'université Sorbonne Paris-Nord et vous êtes membre de la plateforme AgriTAC. C'est comme ça qu'on dit TAR plutôt ?
AgriTAR.
Oui, qui signifie en Wolof ?
Qui signifie ville.
Voilà. Et donc vous êtes spécialiste de l'agriculture urbaine et périurbaine dans les pays du Sud. Nous serons aussi en ligne avec, en direct d'Abidjan avec Jean-François Kakouaka pour parler en Côte d'Ivoire de l'initiative Ville Verte de l'Institut de l'économie circulaire qui se met tout juste en place. Et chez vous, les voisins et les voisines, quelle agriculture urbaine pour approvisionner votre ville et surtout quelle pression du foncier sur les jardins de fruits et légumes autour de votre quartier? Vos témoignages, bien sûr, nous intéressent. Appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 7 64 45 51 41. Et justement, en fin d'émission, un tout autre sujet. La chronique Voisins connectés d'Estelle Janjo sur l'évolution des sociétés africaines mondialisées à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux et la tech. Et aujourd'hui, elle s'intéresse à la chanteuse sud-africaine Tyla. Pourquoi est-elle victime de cyberharcèlement en tant que métisse ?
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et tout de suite, nous revenons à l'agriculture urbaine. Est-ce que nous avons notre auditeur en ligne, Machuo, qui est étudiant en master à la faculté d'agronomie de l'université de Jang au Cameroun ? Bonjour Machuo.
Bonjour.
Ah, ça y est, on vous entend. Vous êtes bien en ligne avec nous, Machuo ? Vous nous entendez ?
Oui, je vous entends, là, c'est mieux.
Bon, soyez le bienvenu, Machuo. Donc, vous êtes étudiant et vous vous intéressez de très près à l'agriculture urbaine ?
Oui.
On vous écoute, Machuo. Vous êtes en direct.
Durant l'été dernier, en fait, j'ai eu à pratiquer l'agriculture urbaine. Et pour moi, ça a participé à la réalisation de la sécurité alimentaire dans la mesure où ça permet de rendre disponible suffisamment de nourriture en fait pour les ménages urbains. Mm-hmm. Maintenant, à travers le compostage des déchets urbains, on a pu utiliser ce compost pour faire l'agriculture en fait. Et moi, je pense que l'agriculture urbaine peut participer à une gestion durable des déchets urbains. Donc, on transforme les déchets urbains qui sont en majorité alimentaires en compost, puis on utilise ce compost pour faire l'agriculture urbaine et les déchets agricoles, on produit encore le compost en fait. Mmh. Et ceci contribue donc à une agriculture urbaine circulaire. Maintenant, si l'on veut développer une agriculture urbaine, dans une ville, il faudrait que les municipalités parviennent à définir un cadre réglementaire, par exemple, qui va déterminer les terres réservées à l'agriculture urbaine et les mesures pour une gestion, pour une préservation de l'environnement, en fait, parce que l'agriculture urbaine en général se fait en général dans les zones marécageuses des villes. Et ceci contribue en général à la pollution de l'eau, en fait.
Du fait des fertilisants, des intrants, c'est ça ?
Oui. Parce qu'en général, Les spéculations en agriculture urbaine, c'est en général la tomate, le piment, ce qui nécessite beaucoup de pesticides en fait. Or, il n'y a pas un cadre réglementaire sur l'agriculture urbaine au Cameroun et dans plusieurs pays africains.
Oui, vous mettez le doigt effectivement dès l'ouverture de l'émission, Machuo, sur finalement sécuriser, réglementer l'agriculture urbaine. Vous diriez là à l'échelle de votre ville, Jang, je ne sais pas d'ailleurs si les projets d'agriculture urbaine auxquels vous avez participé, c'était proche du campus de l'université ou si c'était dans une toute autre ville, mais à quelle échelle vous pourriez évaluer l'agriculture urbaine dans la ville où vous êtes, Machuo?
Bon, dans une ville, par exemple, comme Yaoundé, par exemple, je vais dire, c'est principalement une agriculture de proximité, en fait. Donc, en général, un agriculteur qui va cultiver, par exemple, des tomates dans un bas-fond, ses clients seront les habitants tout en haut, en fait.
Ouais.
Et l'agriculture urbaine participe aussi à développer des circuits courts, en fait. Et de meilleurs revenus, en fait, pour les agriculteurs et les agricultrices.
Vous avez bien posé le problème. Merci beaucoup de votre appel, Machuo, étudiant en master en économie, sociologie rurale à l'Université d'agronomie et des sciences agricoles de l'Université de Jang. Merci, très belle journée à vous. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 33 7 64 45 51 41. Christine Aubry, Mokhtar Diouf, je voudrais qu'on fasse un état des lieux par rapport à ce que vient de nous dire Machuo. Déjà, Christine Aubry, qu'est-ce qu'on entend par agriculture urbaine quand Machuo nous parle de culture dans les bas-fonds ou en haut? Enfin, à partir de quel moment on est dans une agriculture urbaine? Ceinture verte, un peu au-delà, ou il faut que ça soit à l'intérieur de la ville?
Alors, on a en fait une définition, enfin, on a des définitions, mais maintenant, on est tous à peu près d'accord sur le fait que l'agriculture urbaine, c'est celle qui est dans la ville, dans les limites de la ville, mais aussi à sa périphérie, dans la mesure où elle est en lien avec la ville, notamment qu'elle fournit des denrées alimentaires, pas forcément que, mais voilà. Et je pense que Mathieu vient de dire très, très bien tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que cette agriculture urbaine, elle nourrit effectivement beaucoup en produits frais, légumes, fruits, etc. Et beaucoup aussi d'élevage, notamment de l'élevage agricole.
Des œufs. Hein.
Des œufs, des poulets, etc. Et que c'est une agriculture qui aussi recycle les déchets de la ville. Donc elle a aussi une fonction d'assainissement pour la ville.
Et est-ce qu'on sait, Mokhtar Diouf, évaluer la part de l'agriculture urbaine dans la masse de denrées agricoles qui se trouvent sur les marchés dans les villes? Sachant que cette agriculture urbaine, elle est en concurrence avec une agriculture de plus grandes parcelles et puis aussi avec tous les produits importés, le riz, le blé.
Le problème actuellement, c'est qu'on n'arrive toujours pas à quantifier la part de l'agriculture urbaine dans l'approvisionnement des marchés notamment dans les villes du Sud. Alors, d'abord, en termes de production, c'est-à-dire ce qu'on produit dans les villes est nettement inférieur à la demande. Ça, c'est clair. Alors, quelle est sa part exacte? Ça, c'est des études qui peuvent encore... C'est ce qu'on essaie de faire aussi. C'est de voir aussi cette part-là dans l'approvisionnement de la ville. Mais elle est beaucoup en dessous de ce que peut produire ou ce qui provient des campagnes, par exemple.
Qu'en est-il des prix des denrées alimentaires qui sont produites aux portes des villes ou dans les jardins, dans les villes? Si on prend évidemment, on ne va pas comparer le riz. Bon, le riz ne peut pas être produit en agriculture urbaine, quoique, mais les produits importés qui sont à très bas prix. Mais si on compare, par exemple, le prix du kilo de tomate, est-ce que le fait que ça soit en circuit court, c'est forcément moins cher ou pas forcément? Parce que ça, c'est quand même un vrai sujet pour les ménages.
Alors, pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique qu'en circuit court, ça soit moins cher. Mais ça l'est souvent. Et ça l'est souvent dans les villes du Sud parce que, notamment, ces produits très frais qui supportent mal le transport, en fait, on n'a pas trop le choix. Il faut les produire à proximité des villes. Et dans l'agriculture urbaine, c'est surtout ces produits-là qui sont produits dans les villes et à côté. Alors, vous avez raison, parfois, il y a aussi du riz. J'ai beaucoup travaillé sur Antananarive et il y a beaucoup de riz à Antananarive.
On peut faire du riz sur des toutes petites parcelles.
On fait en fait du riz plutôt dans les zones de plaine, dans et à côté de la ville. Mais dans les faits, en termes de prix, là, du coup, le prix du riz local est un peu plus élevé, mais la qualité est bien meilleure que le riz importé.
Mokhtar Diouf, on l'entendait dans le témoignage de l'auditeur Macho, les facteurs qui jouent finalement sur la capacité de l'agriculture urbaine à nourrir une ville, c'est quoi ? C'est d'abord la problématique de la surface disponible par rapport à la densité de la population ?
En fait, je vais juste en profiter pour redéfinir un peu l'agriculture urbaine dans le contexte des villes du Sud, par exemple. Si je prends l'exemple du Sénégal, elle est plutôt présente là où on a en permanence ou une bonne partie de l'année de l'eau disponible. Donc, ce qui veut dire qu'on est plutôt dans des zones humides ou des zones qui sont, dans la plupart du temps, accidentées. Donc, c'est une agriculture qui se trouve dans des zones qui sont...
Des interstices.
Très, très, très urbains, mais aussi des espaces qui sont non constructibles, qui sont classés, du coup. Et le fait d'avoir cette agriculture-là dans ces espaces-là permet également aussi de c'est une sorte de protection. Mais on reviendra sur le foncier un peu plus tard. En termes de prix, sur les denrées, le fait d'avoir donc ces produits-là qui sont les produits maraîchers à la porte de la ville, forcément, vont coûter un peu moins cher, même en termes de... Parce qu'il faut rajouter aussi le coût du transport. Quand c'est produit un peu plus loin, à des dizaines de kilomètres, il faut les transporter jusqu'à la ville.
Il faut les transporter bien, sans abîmer la marchandise.
Très bien.
Qui veut dire aussi les stocker avant le transport. Tout ça, c'est ce que compte une agriculture moderne. Et c'est parfois ce qui fait défaut à l'agriculture du continent africain. Les espaces de stockage, le transport soigneux, pour que la marchandise ne s'abîme pas non plus dans les espaces de stockage.
Exactement. Et en termes de production aussi, si on prend les parcelles disponibles, les parcelles agricoles qui sont disponibles, à l'intérieur donc, de nos villes, c'est des parcelles qui sont, en termes de superficie, c'est de très petites superficies.
Ah bah justement,
donc, en termes de production, c'est des productions qui sont très limitées.
Vous parliez de superficie, je vais vous lire le message de Ngouézi qui est à Kinshasa à propos de la pression foncière, justement. « Autrefois dans mon quartier, nous dit Ngouézi, il y avait au minimum un arbre fruitier par parcelle et un potager sur une parcelle de 20 mètres carrés, ce qui n'est pas très grand, en moyenne par ménage. Aujourd'hui, les parcelles sont de 10 mètres carrés pour 8 ménages et les cours communes sont devenues des corridors sans arbres ni jardins. La question du foncier, en général... Dans ces villes, alors difficile de généraliser sur l'ensemble du continent, mais les parcelles cultivées dans les villes appartiennent à qui ? Celles qui sont dans les villes ou aux portes des villes ?
Alors ça, c'est une grande question. Et en fait, on voit qu'il y a une grande diversité de propriétaires qui peuvent être des propriétaires de la ville ou d'ailleurs. Et c'est rarement, en fait, celui qui l'exploite qui est directement le propriétaire. Et ça pose en particulier des problèmes lorsqu'on veut implanter des arbres. Parce que pour implanter un arbre, il faut être propriétaire de la terre ou que le propriétaire soit d'accord. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Pareil, mais ceci dit, c'est vrai qu'on est sur des petites parcelles, mais n'empêche qu'on arrive à produire quand même pas mal. Je vous rappelle que, par exemple, on a fait des études alors qui ont demandé quand même beaucoup de travail, et c'est pour ça que la quantification, c'est important et c'est long.
Et oui.
Voilà, il faut vraiment y consacrer un peu des moyens. Mais à Tana, on avait pu montrer qu'on arrivait à produire plus de 80% des tomates dans un rayon de moins de 10 km autour de Tana. Et que pratiquement la totalité du cresson, mais aussi 90% des poulets consommés sur Tana, qui étaient produits dans des systèmes très différents depuis le poulet gâche, comme on appelle, c'est-à-dire vraiment dans les cours, qui est d'ailleurs celui qui est le plus apprécié aujourd'hui, jusqu'à des formes de batterie, etc.
Ah oui, donc 90% du poulet.
Et je crois qu'à Dakar, on n'est pas loin de ça aussi, d'après ce que j'avais vu.
Oui, actuellement à Dakar, il y a en termes de production donc de poulet, Il y a une très bonne... On est en taux de à peu près 80-90% de production de poulet qui vient soit de Dakar, soit de la...
Des banlieues.
Voilà, de banlieues dakaroises. Mais juste pour revenir sur l'espace, le fait qu'on a une densification donc, du bâti, on a deux problèmes à régler à ce niveau-là. Le premier problème, c'est qu'on a une forte densification donc, du bâti à l'intérieur donc, de la ville. Et donc, tout ce qui est espace... interstitiel qui permettait les délaissés urbains qui permettaient donc de pratiquer de l'agriculture de manière familiale. Donc avec la densification, donc ce type d'agriculture a totalement disparu donc à l'intérieur donc de Dakar. Donc, quand vous prenez des petites villes ou des villes moyennes, comme Ziguinchor ou Atambacounda, on peut en retrouver de temps en temps dans des quartiers où c'est une sorte d'agriculture familiale. Alors, la deuxième question, elle est aussi sur la périphérie de cette ville. C'est-à-dire, comment on fait pour gérer cette périphérie-là? Alors,
justement,
et ne pas se retrouver dans... Voilà.
Vous évoquiez le cas de Ziguinchor, Mokhtar Douf. Je voudrais vous lire le message d'Abdourahmane, qui est justement à Ziguinchor, donc dans le sud du Sénégal, en Casamance. Il nous dit qu'il n'y a plus d'agriculture urbaine à Ziguinchor à cause de l'urbanisation anarchique. Les jeunes vont à la périphérie de la ville, à 3 km de la ville, pour cultiver. Ça reste de l'agriculture urbaine, mais il y a de quoi décourager.
Il y a de quoi décourager, mais aussi, nous, en tant que chercheurs aussi, on se pose la question, où s'arrête notre ville, du coup?
Ah oui.
Cette délimitation donc, de la ville, et ça revient aussi à la question de la redéfinition, donc, ou de la définition de l'agriculture urbaine. Elle s'arrête où, la ville?
Quand vous avez des femmes qui font une heure de trajet le soir pour aller rejoindre leur parcelle, on n'est plus dans l'agriculture urbaine. C'est parce qu'elles avaient une parcelle dans Ziguinchor ou à la sortie de Ziguinchor, et elles ne l'ont plus, elle est plus loin.
Elles ont les parcelles qui étaient à l'intérieur, donc juste à côté donc des habitations, ou à l'intérieur donc de la maison, donc dans les cours, qui ont disparu. Et maintenant, on a la périphérie directe donc de la ville avec l'extension donc du bâti. On a des quartiers donc qui étaient d'anciennes zones rizicoles à Ziguinchor par exemple, qui sont devenus donc des zones d'habitation. Donc ça repousse encore donc les limites de cette pratique agricole. Et pour les femmes, ça devient beaucoup plus pénible.
Oui.
Ça veut dire donc il faut d'abord les travaux domestiques. Et à faire une heure de route, aller une heure de route autour. Donc, ce qui veut dire que donc, c'est un peu...
Difficile de maintenir une agriculture urbaine.
Certains abandonnent aussi.
Christine Aubry-Mokhtar-Diouf, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Jean Aka pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, un pays qui est plus connu pour ses cultures de rente, café, cacao, que pour ses productions maraîchères urbaines. On verra où en sont les politiques locales dans ce domaine. Et les voisins, bien sûr, vous nous appelez si vous êtes témoin de la disparition ou au contraire de la renaissance de jardins, de fruits et légumes près de chez vous. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41 et racontez-nous les difficultés auxquelles vous faites face si vous cultivez vous-même. On se retrouve juste après Burna Boy, Update, en playlist sur RFI. Back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now.
Then no fit touch my energy. Abba, I'm holding time. If I no get money, na disability. Baba, so forget me, my shy blocky. My lost a oh, ready for one cow. Abba, be a cow. My updates go late, bow. Money, one bow. Take them to your cow. My love, bow. I'm a fruit of labor. Every day I just pray. Every woman give me special treatment. Won't feel me like anybody. Come. My lost cow, ready for one cow. I bad be a cow. My updates go late cow. Money one cow. Take them to your cow. My love cow. I'm a patches to walk for a shower. Ah.
bawo. Money, more bawo. Take them to Yankao. My love, bawo. I'm a bache suwako a shawo.
De voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
On dit quoi ? Eh bien, on est en plein Ramadan, mais bien sûr, on parle aussi de l'agriculture urbaine, une façon aussi de créer des emplois sur le continent africain, dans les villes africaines. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Dites-nous aussi quelle est la pression sur le foncier pour conserver les jardins de fruits et légumes. On est en ligne avec un auditeur, José, 26 ans, à Lomé, au Togo. Bonjour José.
Bonjour, bonjour Manuel.
Soyez le bienvenu José. Alors vous êtes éleveur de lapins. Je ne sais pas si c'est votre profession principale ou par ailleurs vous êtes étudiant José.
Non, maintenant c'est ma profession. Avant j'étais étudiant, maintenant je suis éleveur, cuniculteur, élevage de lapins.
D'accord, donc après les études vous avez décidé de suivre une formation d'agriculture de 8 mois, c'est ça, pour créer des pépinières de fruits et de légumes. Mais pour l'instant vous élevez surtout des lapins hein, à Lomé.
Oui, c'est ça, j'ai les lapins chez moi, dans ma maison, c'est ça.
Mais vous êtes dans quel quartier, José ?
Je suis à Lomé, dans un quartier à Gouenivé, à Gouenivé.
D'accord. Et vous avez suffisamment de place pour élever des lapins ? Quelle est la surface que vous consacrez à cet élevage de lapins ?
Non, je le fais dans des clapiers de 15 fois 30 mètres, voilà, c'est ça. Donc, je le fais sur ma terrasse.
Ouais.
Et... voilà, de façon moderne, avec des granulés à la pluie, je les donne à manger.
Ouais.
Et voilà, c'est ça. À peu près ça, c'est pour les lapins, ça.
Et vous produisez pour combien de personnes, à peu près ?
Les lapins ?
Mmh.
Oui, oui, bon, ça c'est pour la commercialisation. Donc, donc je le produis au moins en quantité. 50 lapins par mois. J'ai beaucoup de femelles et de mon mâle. Oui, c'est ça. Parce que les lapins produisent beaucoup. Les lapins peuvent donner...
Oui, ça on sait, les lapins se reproduisent beaucoup. Mais c'est vrai que vous avez en gros, en permanence, 50 lapins dans votre élevage. Hein.
Voilà, par mois, j'ai au moins 50 lapins en vente.
Mm-hmm. Et donc, c'est devenu une profession. Vous arrivez à en vivre ?
C'est de ça ma profession maintenant. Je vis des lapins et je vis un peu de l'agriculture aussi. C'est ça ma profession. Mmh. Avant, je le faisais juste pour du plaisir. Mais à un moment donné, je me dis, mais ça, c'est du business. Avec ça, je peux m'en sortir financièrement et tout.
Ah,
et
ça m'aide. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message sur l'agriculture urbaine ? Vous qui êtes jeune, José, vous avez 26 ans et vous avez fait des études supérieures.
La première des choses, il y a le volet entrepreneurial. Et quand on s'engage dans ce domaine, ça te permet beaucoup d'avoir beaucoup de connaissances dedans. La première chose, c'est quoi ? C'est de produire des semences à ta propre portée, ce qui te permettra de ne plus aller vers les vendeurs, les bonnes dames au marché.
Oui.
Tu as tout à ta portée à la maison. Quand tu auras un petit souci financier, tu n'as plus besoin d'aller acheter quelque part. Il suffit de récolter ce que tu as semé, c'est ça.
Mm-hmm.
La tomate, le poivron, peu importe, l'oignon ou le piment, voilà, c'est ça.
Et la formation que vous avez faite, justement, vous avez appris à produire vos propres semences ?
Oui, c'est ça, bien évidemment. On nous a appris à faire la pépinière des semences, comment faire la semence, à quel moment ça doit durer, et aussi, le traitement, il faut aussi traiter. Et à pas un moment, il y a des insectes qui viennent pour ravager ce que tu as produit, donc il faut aussi faire le traitement.
Mmh.
C'est ça.
Alors pour l'instant, vous êtes dans l'élevage de lapins parce que c'est ce qui semble rapporter le plus facilement. Cette formation en agriculture de 8 mois, vous avez dû la financer vous-même, José ?
Oui, c'est moi-même qui l'ai financé. À peu près un tour de 100 euros, sur 5000 francs.
Mmh.
On a juste payé pour la formation, mais on nous a logé à l'interne, dans l'internat, et c'était gratuit. C'est juste la fois de formation qui est à peu près à 60 000, donc on nous a logé là-bas gratuitement, c'est ça.
Est-ce que vous pensez que les jeunes qui ont fait des études peuvent juger l'agriculture urbaine attractive ?
Oui, je le pense bien. Mais ça doit passer par la communication, parce qu'il manque de communication. Dans ma capitale, à Lomé, peu de personnes le font, très peu de personnes, ou soit des passionnés qui le font. Mmh. Et ça doit passer maintenant par le relieu, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture. C'est eux qui doivent entreprendre les démarches pour permettre aux jeunes de s'intéresser au volet agriculture urbaine, c'est-à-dire hors sol dans ta propre maison. Et ça doit passer aussi par des formations pour avoir des prérequis dans les domaines, dans le domaine. Parce que sans formation, tu ne peux pas faire. On ne peut pas communiquer pur, se lancer directement dedans. Il faut faire une formation.
Bien sûr. Et savoir les deux. Il ne suffit pas d'avoir, il ne suffit pas d'avoir une terrasse comme vous ou une cour jardin. Merci beaucoup, José, de nous avoir appelé pour ce témoignage, parce que vous avez l'air assez heureux, finalement, avec votre élevage de lapins qui a l'air de bien rapporter. Est-ce que l'agriculture urbaine peut vraiment créer des emplois et être attractive pour les jeunes? Parce qu'on sait que les jeunes se... Bon, l'agriculture en général, c'est le premier bassin d'emploi du continent africain, trop informel, hein, bien évidemment. Et puis souvent, les jeunes n'ont pas forcément envie de rester dans les villages. Là, ça devient différent à partir du moment où on cultive et on a aussi toute l'attractivité de la ville, les soins médicaux, l'accès à l'école, etc. Pour les enfants, quand on est un jeune de 26 ans, Mokhtar Diouf.
Bah, son exemple montre une adaptation aussi de l'agriculture urbaine ou le système hors sol. Que ce soit pour l'élevage donc de lapins ou des poulets de chair, ou que ce soit également de l'agriculture, enfin des systèmes hors sol de production donc de légumes et autres, bah, sauf que ça demande un certain moment quand on passe au système hors sol. Parce que ça demande un certain moment, il faut un financement pour pouvoir donc s'équiper et pouvoir le faire. C'est un bassin d'emploi mais énorme pour la jeunesse.
Mais je confirme tout à fait. On voit des exemples absolument. Merci beaucoup à José pour ce témoignage. On voit des exemples aussi en légumes innovants. Enfin, là, je trouve que ce que José nous montre, c'est de l'innovation aussi, hein, dans le choix des productions, adapté à des petits espaces, de la formation qu'il a suivie. On voit le même type de choses en Europe avec des jeunes, hein, qui se remettent à faire de l'agriculture urbaine. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. À Ziguinchor, on a eu en particulier des races nouvelles de moutons. Hein, qui ont été
adaptés aux petites terrasses.
Voilà, adaptés aux petites terrasses avec de tout petits espaces. Voilà, donc c'est vraiment un lieu d'innovation et je pense que ça peut être très attractif effectivement pour les jeunes.
Vous continuez de nous appeler, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41 pour témoigner de la renaissance de l'agriculture urbaine ou des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, notamment l'accès au foncier, conserver sa parcelle quand la pression foncière est très forte. Nous sommes en ligne avec Jean-François Kakouaka d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Kakouaka, vous êtes spécialiste de la bioéconomie circulaire à l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Dites-nous en quoi consiste l'initiative Ville Verte qui démarre tout juste. Je rappelle que vous êtes dans une ville où la croissance urbaine est d'environ 3% par an.
Ouais, 3,5% par an, précisément.
Oui.
L'initiative Ville Verte est une initiative de la FAO qui vise à transformer les systèmes forestiers, agricoles et alimentaires des villes et des périphéries de ces villes-là, en vue d'accroître le bien-être et la résilience des villes face au choc, effectivement. Cette initiative est née de la COVID-19, de l'expérience douloureuse de la COVID-19, où toutes les villes avaient des difficultés pour s'alimenter. La Côte d'Ivoire a vécu cela, avec l'Abidjan qui était l'épicentre de la maladie, qui a dû à un certain moment ouvrir ses frontières pour laisser entrer les camions de ravitaillement, avec tout ce que cela consistait comme risque.
Alors pour l'instant, vous en êtes au stade de l'identification des parcelles disponibles, c'est ça pour l'ensemble des 13 communes?
Oui, dans cette situation de Covid a fait réfléchir la plupart des autorités ivoiriennes. Dans le cadre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, il y a eu des études pour préserver et valoriser la zone verte.
Ah, on a un petit problème de ligne, Jean-François Kakouaka. On essaye de vous rappeler parce que la ligne est en train de se dégrader. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même très dominé par une agriculture de rente, est-ce que il y a une prise de conscience dans des villes comme ça qui ont une forte croissance urbaine, mais Abidjan n'est pas la seule ville à avoir une telle croissance. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des autorités locales, Christine Aubry? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion collective des élus locaux sur l'agriculture urbaine où finalement la pression du foncier recouvre tout?
Alors, je crois qu'on peut voir le verre quand même à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, effectivement, des élus locaux. Alors, pas systématique et pas suffisante, c'est clair, mais quand même, en particulier parce qu'ils ont souvent bien compris que, justement, pour les produits frais, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Il fallait pouvoir les produire sur place et quand la population augmente, eh bien, la demande augmente. Donc, dans les faits, c'est une nécessité de pouvoir conserver des éléments. Alors, dans l'initiative Ville Verte de la FAO, il est clair qu'il y a un volet très important qui est d'appuyer la gouvernance, d'appuyer l'aménagement urbain, de pouvoir conserver du foncier précisément pour l'agriculture, avec plusieurs types d'incitations, on peut penser à des incitations fiscales, ce type de choses, pour pouvoir conserver dans la ville et surtout à côté de la ville des espaces suffisants pour pouvoir quand même produire une partie de l'alimentation.
Vous nous disiez tout à l'heure, Mokhtar Diouf, qu'il existe partout dans toutes les villes africaines, des espaces, des terrains non constructibles hein, pour des raisons de sécurité, risque d'inondation, d'effondrement de terrain. Est-ce que ces parcelles pourraient faire l'objet de projets agricoles, je veux dire plus formels, hein, sans que ce soit justement l'endroit où personne n'a envie d'habiter parce que les risques sont très identifiés et où va s'installer une parcelle de manière complètement informelle, sans sécurité sur l'avenir, sans être jamais certain que la famille va pouvoir continuer à cultiver à cet endroit-là, dans cette petite poche.
C'est très compliqué parce que j'ai donné l'exemple de la ville de Tambacounda que j'ai étudié aussi. Hein. C'est pour ça que je donne cet exemple donc pour être sûr de ce que je dis. Ils ont une vallée sèche qui s'appelle le Mamakunda, par exemple. C'est dans cette vallée-là, donc il y a une forte activité maraîchère, par exemple. Mais pendant l'hivernat, c'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que toute l'eau de pluie donc de la ville ruisselle par là. Et à partir de ce moment-là, il y a pas moins de protection pour pouvoir protéger donc ces parcelles agricoles. Parce que ça demande énormément de moyens et la municipalité ne pense pas pouvoir donc financer donc ces types de travaux pour pouvoir protéger donc ces jardins-là. Je vais juste en profiter pour rebondir un peu sur le concept de ville verte. Il y a aussi la ville de Touba qui développe aussi ce concept-là et qui marche très bien. J'ai un article qui sortira soit dans le courant avril peut-être et qui revient donc sur cette dynamique végétale au niveau donc de la ville de Touba.
Ouais. Et quel est le secret? Voilà. Pourquoi à Touba l'agriculture urbaine est relativement dynamique?
C'est pas de l'agriculture urbaine, mais c'est les lignes, les arbres. Qui reprennent, qui sont à travers des initiatives individuelles de plantation d'arbres, où on a un couvert végétal qui est un peu plus dense que dans la périphérie, par exemple. Mais il y a cette activité-là aussi à développer en même temps, c'est-à-dire intégrer plus d'agriculture donc urbaine au niveau de Touba, ça serait bien d'accompagner aussi ces initiatives de plantation d'arbres d'alignement,
c'est pas le résultat publics, d'une volonté politique en fait, hein. C'est plutôt le résultat d'une série de projets informels ou de projets en tout cas des habitants.
C'est un projet bien, c'est en deux parties. Il y a un projet qui est très bien pensé et qui est accompagné et coordonné donc par l'association Touba Sekanam, et en même temps en force des conditions climatiques. Donc de la chaleur. Donc du coup, les gens ont commencé à planter des arbres chez eux. Mais ça, c'est historiquement, c'est des habitudes.
On a retrouvé Jean-François Kakouaka. Il nous reste très très peu de temps, Monsieur Aka. En une minute, pourriez-vous nous dire concrètement comment à Abidjan, dans ce projet qui démarre, initiatif Ville Verte, comment est-ce que vous comptez faire le poids par rapport à la pression du foncier qui est très très intense à Abidjan? Rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Aka.
Oui, effectivement, sur ce point, il y a des réflexions qui sont menées, déjà à travers la révision du schéma directeur du Grand Abidjan, des réflexions de compensation des personnes ayant des titres fonciers agricoles, effectivement, pour préserver les différentes zones agricoles. Et donc, ce sont des réflexions qui sont menées comme ça. Nous essayons de faire une mobilisation. mobilisation de tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'agriculture urbaine.
Donc une réflexion pour indemniser des personnes qui ont des parcelles agricoles pour qu'elles ne soient pas destinées au bâti, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Jean-François Cacou. Christine Aubry, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui misent sur l'agriculture urbaine, alors que ce soit par volonté politique ou par initiative communautaire, quels sont les projets intéressants aujourd'hui qui peuvent guider les auditeurs qui nous écoutent?
Alors, c'est difficile à dire parce que ça dépend beaucoup. C'est généralement pas des pays, ce sont des communes ou des collectivités qui, très, très généralement, soutiennent les projets d'agriculture urbaine. Alors, il y en a eu un certain nombre qui ont signé en 2015 le pacte de Milan, Nourrir les villes, dont Antananarivo, qui avait d'ailleurs été primé pour ça, et qui commencent effectivement à développer dans leur schéma directeur d'aménagement certaines formes de protection. Encore une fois, c'est très insuffisant, mais ça commence. Ce que je voudrais dire, c'est que pour les aider à faire ça, il faut produire des documents, il faut produire de la recherche, il faut pouvoir quantifier les services. Et on sait qu'il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui se font en Afrique là-dessus. En particulier, ben nous, nous souhaitons aujourd'hui organiser des journées internationales de l'agriculture urbaine en Afrique francophone et à Madagascar. On espère faire ça à Dakar, au Sénégal, à la fin de l'année, entre le 24 et le 28 novembre. Si on arrive à trouver les financements.
C'est ça, pour réunir. Hein,
pour réunir tous les chercheurs, les
acteurs,
toute la recherche
de l'agriculture
action,
urbaine. Ouais.
Et c'est vraiment important parce que les collectivités, elles ont besoin de ces appuis-là.
Et on l'entendait, il y a des jeunes qui sont intéressés, comme José, étudiant, diplômé, qui s'est lancé dans l'élevage de lapins. Et Mokhtar Diouf, vous nous le disiez, l'agriculture urbaine nécessite des investissements, hein, parce qu'il faut augmenter la productivité pour rendre l'agriculture urbaine plus crédible, finalement, hein, pour renforcer son image. Et pour réaliser des investissements techniques, il faut de l'argent. Notamment, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'agriculture urbaine soit à l'heure actuelle plus crédible comme type d'investissement?
En fait, il faut d'abord, il y a un pli essentiel, c'est le foncier. C'est-à-dire, donc, à partir
sécuriser le foncier.
Avec, et nous, on propose...
Voilà, un bail formel.
Un bail formel ou des occupations temporaires agricoles qui sont liées ou qui sont conditionnées par la mise en exploitation donc de la parcelle. Des choses assez simples qui peuvent être coordonnées par la municipalité. Ça, c'est clair. C'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. Il faut juste trouver le foncier et la volonté politique. Et pour pouvoir financer, la grande question, elle est là. C'est-à-dire...
L'irrigation
Il faut d'abord des systèmes de goutte à goutte, la plupart du temps, qui sont utilisés. Il faut protéger, donc des clôtures donc de protection. Il faut aussi le matériel, le petit matériel agricole... c'est pas qui est aujourd'hui très très manuel, hein, à la main, pénible, et ça, voilà. Donc on est à l'ère de la jeunesse où tout est tactile, donc c'est voilà. Pensez aussi à la technologie intégrée, donc cette technologie là au sein de l'agriculture urbaine. Et je vois des exemples comme ça au Sénégal, hein, mais qui sont plutôt dans l'agriculture rurale, qui peuvent être développés aussi au sein de la ville sur des petits espaces. Ça également, c'est possible. Et en termes de protection, j'y reviens un peu parce que c'est un peu l'objet d'Agritar aussi, hein, notre plateforme,
qui est de
servir de pont
aussi,
en fait,
ouais.
entre des acteurs, des associations, les institutions et les municipalités, servir de pont pour que les universitaires, tout ce que nous produisons en termes de production scientifique, ne soit pas que des articles, mais que ça puisse être de la recherche accessible à tous. Et ça, c'est des journées d'études, on en aura un, le César Villet, sur le foncier agricole.
Christine Aubry, vous nous disiez, ça sera le mot de conclusion, mais vous nous disiez finalement, c'est plus à l'échelle des communes que tout se joue et pas tellement à l'échelle des pays. Moi, j'ai quand même le sentiment, on a fait plusieurs émissions sur l'agriculture urbaine chez 8 milliards de voisins, que le Sénégal, en tout cas, communique beaucoup sur ce sujet, en tout cas, se mobilise pour partager des informations, des savoir-faire sur l'agriculture urbaine.
Alors, c'est vrai, entre autres, parce que le Sénégal a été le lieu d'innovation très intéressante, comme les micro-jardins, par exemple. Un micro-jardin qui se sont développés en ville, dans des cours, sur des toits, pour produire des légumes. Au départ, c'était un tout petit projet pour des femmes vulnérables, etc. Maintenant, la production des micro-jardins, c'est plus de la moitié de la consommation de légumes de Dakar, enfin de légumes feuilles, surtout. Et ça, ça montre qu'effectivement, il y a eu à la fois un soutien et une communication, notre auditeur en parlait, une communication suffisante pour pouvoir faire connaître ces produits. Et c'est vrai que le Sénégal, c'est aussi pour ça qu'on veut faire les journées internationales francophones au Sénégal, sur l'agriculture urbaine. C'est vrai que le Sénégal est particulièrement en pointe.
Alors, on se donne rendez-vous pour ces journées, Inch'Allah, si vous trouvez les financements. Merci à tous les deux. Christine Aubry, directrice de la chaire agriculture urbaine d'AgroParisTech. Vous avez publié notamment « Vers une ville verte et agroécologique », un ouvrage collectif aux éditions de l'Apogée en 2025. Vous aviez aussi publié un livre sur l'agriculture urbaine à Madagascar. Mokhtar Diouf, géographe, chercheur et enseignant à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Merci d'avoir été avec nous. Et vous êtes membre de la fameuse plateforme Agritar sur l'agriculture urbaine et périurbaine dans les pays du Sud pour partager des connaissances très concrètes. Et merci à Jean-François Kakouaka en Côte d'Ivoire, membre de l'initiative Ville Verte de l'Institut de l'économie circulaire. À suivre la chronique d'Estelle Janjo chez 8 milliards de voisins sur RFI.
Cocody, ma woman, le bonheur c'est nous.
Le bonheur c'est nous.
Mais quand tu t'éloignes de moi, je pense à ce qu'on s'est dit. Qu'on s'est dit. Tu sais, je te cherche depuis longtemps. Wanna see you, my baby. Oh. Je voulais ton cœur depuis longtemps. Wanna see you, my baby. Oh. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. J'aime bien le feeling, Engana, c'est Billy. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. Lundi, oh lundi, tu restes ma baby, oh. Baby, my lover.
My baby, my lover.
Baby, my lover.
My baby, my lover.
Baby, my lover.
My baby, my lover.
Baby, my lover. Mon brada,
brada, brada.
Le temps fait tic-tac, viens, je t'emmène en balade.
Je t'emmène en balade.
N'écoute pas les haineux, les choses que j'ai pas commises.
Pas commises, que j'ai pas commises.
Ce soir c'est le fire, champagne pour pas dormir.
Pas dormir, non, faut pas dormir.
Tu sais, je te cherche depuis longtemps. Wanna see you, my baby, oh. Je voulais ton cœur depuis longtemps. Wanna see you, my baby, oh. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. J'aime bien le feeling, Engana, c'est Billy. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. Lundi, oh lundi, tu restes ma baby, oh. Baby, my lover.
My baby, my lover.
Baby, my lover.
My baby, my lover.
Baby, my lover.
My baby, my lover.
Baby, my lover.
C'est NASA chez 8 milliards de voisins, Baby Lova. Voisins connectés, c'est la chronique d'Estelle Janjo, journaliste chez 8 milliards de voisins, sur l'évolution des sociétés africaines mondialisées à travers les écrans, les réseaux sociaux. Bonjour Estelle.
Bonjour Emmanuel.
Estelle, aujourd'hui vous dénoncez le cyberharcèlement dont fait l'objet la chanteuse sud-africaine Tyla. Et ce qui est étonnant, c'est que la chanteuse métisse est la cible des internautes afro-américains.
Alors Tyla, vous la connaissez forcément, c'est la chanteuse originaire de Johannesburg qui mêle l'amapiano et la pop. Elle a 23 ans, elle est très talentueuse, elle est très belle et ses chansons tournent systématiquement en boîte de nuit, comme sur TikTok.
Me up, give me motivation. Tell me where we come, pick a destination. Gas
2024, la musique de Tyla s'est beaucoup exportée dans le monde et notamment aux États-Unis. Mais lors d'une interview, elle a fait un bad buzz. Un animateur radio noir américain lui a demandé d'expliquer, en tant que sud-africaine, pourquoi elle se définit en tant que « colored », donc « personne de couleur » en français. Mais en réalité, le mot « colored » signifiait durant l'apartheid « ni noir ni blanc ». Alors là, c'est un sujet très sensible, Emmanuel. Hein. Sa communicante assise juste derrière elle lui a demandé de ne pas répondre. Et depuis des mois, les Noirs américains fulminent contre Tyla, qui l'accuse de rejeter son côté noir tout en profitant du marché noir américain pour s'exporter. Le youtubeur camerounais Stevie de Music Feelings en parle mieux.
Ils estiment que oui, c'est mal poli, elle se prend pour qui. Moi, je pense surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une petite fille africaine qui est fière d'elle, qui est très très sûre d'elle et que ça déboussole. Et je vois que beaucoup de femmes afro-américaines lui tombent durement dessus.
Alors depuis, la chanteuse sud-africaine Tyla s'est expliquée dans un tweet sur X. Elle est issue d'un métissage zoulou, mauricien, indien, irlandais. Dans l'Afrique du Sud, où les catégories raciales remontent à l'apartheid et où les métis étaient moins exclus que les personnes noires par les blancs, en fait, Tyla fait partie d'une génération qui aujourd'hui revendique son métissage avec fierté, mais c'est pas si simple en fait.
Mais en fait, ce métissage, il est très mal compris aux États-Unis où une seule goutte de sang noir suffit pour être noir. Mais selon moi, cette polémique, Emmanuel, cache un autre malaise, celui d'un bouleversement dans l'industrie de la musique, l'arrivée d'artistes à succès africain avec l'afrobeat, donc le fameux phénomène venu du Nigeria. Les Noirs américains, ils ont longtemps eu le monopole de la musique noire mondiale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Sur les réseaux sociaux, Africains et Caribéens ont pris la défense de Tyla. Il y a un ras-le-bol général en fait d'être méprisé parce qu'Africain, même quand on a un succès fou auprès des Américains qui sont quand même très auto-centrés, comme le raconte Dominique Zaka, célèbre créatrice de contenu sud-africaine.
You need to step and learn from us what Africanity is, what being an African is. You can't even point out Africa in a map.
Vous devez apprendre de nous, apprendre ce qu'être africain signifie. Vous n'êtes pas capable de pointer l'Afrique sur une carte. Estelle Gianjo, est-ce que vous comprenez cette colère des Noirs américains ?
Je comprends tout à fait cette colère, en fait. Quand on est noir, il y a beaucoup de chances pour qu'on ait consommé de la musique noire américaine. En fait, on s'identifie à ces artistes, même s'ils ne sont pas de notre culture, car ces artistes partagent notre condition noire. Aujourd'hui, on se rend compte que cette identification, en fait, elle s'estompe dès que les Américains n'ont plus le monopole de la musique ou n'ont plus le monopole de définir qui est noir et qui ne l'est pas.
Alors pour résumer, si vous voulez vous faire une idée sur la couleur de peau de la chanteuse sud-africaine Tyla, vous réécoutez cette chronique d'Estelle Gianjo sur RFI.fr et puis bien sûr on vous retrouve Estelle en vidéo sur notre compte Instagram 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et demain, chez 8 milliards de voisins, on se retrouve en direct. Que racontent les toilettes publiques en Occident sur le corps, sur le genre et bien sûr sur la guerre culturelle aux États-Unis? On en discute demain et pour réécouter toutes nos émissions, RFI Pure Radio et toutes les plateformes de téléchargement. Et vous nous retrouvez aussi bien sûr sur Instagram, sur WhatsApp Channel. À demain, les voisins et les voisines, dans quelques instants, le journal sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.